Voilà, on est revenu après un petit bug internetique, évidemment. Donc on revient dans notre histoire. Donc je disais, on va répéter 12 fois la même chose, les mêmes corbanotes, car ce n'est pas la même façon d'apporter le corban si on est de la tribu de Asher ou de la tribu de Dan. Et donc, ce que je veux qu'on comprenne bien, bien que la volonté est la même, on veut s'attacher à Kadosh Barouh, eh bien, la façon dont je vais pouvoir m'attacher à lui est évidemment fondamentalement différente en fonction du monde, eh bien, du monde dans lequel je suis, dans le monde dans lequel je vis, des valeurs qui m'ont été transmises. Et je voudrais vous donner un exemple tout bête que nous disons 3 fois par jour. 3 fois par jour, lorsque nous disons dans la tefila, Baruch Ata Hashem Eloheinu ve'Elohe Avotenu. Eh bien, lorsqu'on dit Elohe Avotenu, on ne fait pas référence à Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisque juste après, on dit Elohe Abraham, Elohe Yitzhak ve'Elohe Yaakov. Donc, à quoi faisons-nous référence lorsque nous disons Elohe Avotenu? Eh bien, à la chaîne qui me lie moi à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et ainsi de suite. Ce qui fait que, eh bien, forcément, la façon dont je suis connecté à l'identité d'Israël, eh bien, va avoir un prisme qui n'est pas le même que mon prochain. Si je devais caricaturer, je dirais que, de mon point de vue, Dieu, il mange du gefilte fish. Alors que celui qui aura grandi au Maroc, eh bien, pour lui, Dieu, il mange de la fina, du poisson à la marocaine. Et il est évident qu'au-delà de la simple différence culinaire, il s'agit ici d'un vrai concept. Je ne peux m'attacher à Kadosh Barouh que par le prisme qui me rattache à l'identité d'Israël, c'est-à-dire mon, j'ai envie de dire mon identité, mais au-delà de cela, ma famille au sens large. Et donc, eh bien, lorsque on va laisser la place à chacune des tribus, eh bien, ça va laisser la place à chacun de pouvoir exprimer sa relation avec le Créateur. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la paracha de Nassau va prendre le temps de revenir 12 fois sur les différentes, sur les différents korbanot hamilouim, bien qu'étant le même korban, techniquement, ça n'est absolument pas le même korban. Quand on y regarde de plus près, je vais vous rentrer dans une réalité de la paracha de Nassau. Le plan général du livre de Bamidbar est un plan assez incroyable. Nous avons plusieurs parashiot, Bamidbar, Nassau, Be'alotecha, Shlach, Korach, Chukat, Balak, Pinchas, Matot, Masseh. 10 parashiot dans le livre de Bamidbar. Et ces 10 parashiot suivent un plan que le Rav Tzvi Yehuda Kouk nous a enseigné, qui est un plan assez extraordinaire. Nous dit le Rav Tzvi Yehuda, la parasha de Bamidbar, c'est le seder. C'est, comment dire, voilà, on décompte en fait les Bnei Israël, on met tout en place, on met tout en ordre avant le départ. C'est les dernières vérifications, c'est la checklist. C'est la checklist avant de partir. Ça, c'est parasha de Bamidbar, le Seder. Et puis après, dans la parasha de Nassau, on commence à partir. Et quand on commence à partir, eh bien, les problèmes commencent. Évidemment, lorsque tu commences à avancer, les problèmes commencent. Et donc, il va falloir régler les problèmes. Le livre de Bamidbar, Sefer Ha-Derech, le livre du chemin, c'est le livre dans lequel on va régler les problèmes. Dans la paracha de Nassau, on règle les problèmes de l'individu. Dans la paracha de Be'alotecha, Shlach et Korach, on règle les problèmes du Klal, Klal Israël. Pourquoi 3 parashiot? Eh bien, parce que la dimension de Klal Israël porte 3 piliers. Torah Israël, Eretz Israël, Ve'am Israël. Donc, dans la paracha de Be'alotecha, on expliquera quelle est la valeur intrinsèque de la Torah. Dans la paracha de Shlach, de la terre d'Israël. Dans la paracha de Korach, du peuple d'Israël. Ensuite, eh bien, une fois que nous avons réglé les problèmes de l'individu et du klal, nous pouvons avoir notre relation avec les goïms. Ce sont les parachutes de Chukat et Balak, la relation du peuple juif avec les nations du monde. Tout d'abord d'un point de vue politique, dans la paracha de Chukat, et ensuite d'un point de vue spirituel, dans la paracha de Balak. Et puis enfin, eh bien, nous avons, une fois que tout est réglé, eh bien, l'inventaire de ce qui reste à la fin du balagan. Voilà, on refait la liste de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, de où on en est. C'est la paracha de Pinchas, où une fois de nouveau, on recompte les Béné Israël. Et enfin, la paracha de Matot et Massé servent au sevrage du désert. se libérer de l'emprise du désert. Seulement, si on revient dans notre paracha, paracha de Nassau, j'ai dit que c'était la paracha de l'individu et que la paracha prochaine, c'est celle du klal. Et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha de Nassau, il y a une roulia, il y a eh bien, une chaîne qui va me rattacher à moi, individu, au klal Israël. C'est quoi ? Eh bien, c'est la notion de la tribu. Et c'est ce qu'on vient d'évoquer dans ces différentes korbanot hamilouim. La dimension de la tribu, c'est en vérité la famille. C'est la famille au sens large. Et c'est ce qui va me permettre à moi, individu, de pouvoir me rattacher à la collectivité. J'ai besoin, pour m'attacher au collectif, eh bien, de cette dimension d'un collectif plus petit qui me parle plus à moi. Et donc, l'individu va devoir passer par l'étape tribu pour arriver à l'étape klal Israël. Top, Asia Femeur. On a compris le plan général tant de la paracha eh bien, que du livre tout entier. Mais lorsque je dis que la paracha de Nassau parle à l'individu et va régler les problèmes de l'individu, eh bien, on se rendra compte qu'il y a dans la paracha deux styles. Petite ambulance, ça fait plaisir. Voilà. Deux styles d'individus, enfin, du moins deux styles de problématiques qui touche l'individu. Il y a les problèmes qui demandent un éloignement de la sainteté et il y a les problèmes qui demandent un rapprochement de la sainteté. Quel est le traitement pour chaque problème ? Eh bien, ça dépend du problème. Dans la paracha, on va nous mettre en valeur, par exemple, les problèmes dus à l'intimité. L'intimité, je ne parle pas du couple. Je parle de l'homme avec son intimité. Celui qui aura des pertes nocturnes, celui qui sera zave, eh bien, celui qui a des problèmes d'intimité, on lui dit, la première chose à faire, c'est de t'exclure pendant un temps du machané, c'est-à-dire du kodesh. Tu ne peux plus arriver au Beth Amikdash ou au Mishkan. Mais pourquoi cela ? Eh bien, l'intimité, les amis, sans vouloir vous faire un dessin, il s'agit de l'un des deux moyens d'être le plus en connexion avec Dieu. Pourquoi ? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, d'après le judaïsme, est le créateur. Il a créé l'intimité, la semence de l'homme. Eh bien, c'est sa moyen à lui de ressembler à Dieu et devenir créateur, à son niveau évidemment. Lorsque tu as des bugs avec ton intimité, la chose qui te permettrait le plus de ressembler à Dieu, eh bien, qu'en irait que ton rapport avec le divin a bugué. Et donc, il faut que tu prennes conscience de ce qui manque. Pour cela, on va t'éloigner un petit peu. Car vous le savez bien, on prend conscience de l'importance d'une chose lorsqu'on la perd un petit peu. Et donc, celui qui a un problème dans son intimité, on lui dit, toi, pour faire tes shuvah, il va falloir que tu t'éloignes un peu. Ton surplus de Kodesh t'a fait prendre peut-être conscience à tort eh bien, que tu pouvais faire n'importe quoi avec ton intimité. L'autre qui doit s'éloigner du Machané, eh bien, vous le connaissez très bien, c'est le Tsaroua, celui qui est impur, mais impur de la lèpre, de la Tsarat. Or, on a étudié dans la paracha de Tazria, le Torah, vous le connaissez très bien, la lèpre, alors bien qu'il y ait 11 raisons d'amener la lèpre, la plus connue, la plus mainstream, c'est l'Eshonara. Et là encore, si tout à l'heure on parlait d'intimité pour montrer le rapport avec Dieu, eh bien, le Lashon Hara, c'est l'autre pan qui fait que je peux me rapprocher de Dieu. Car si Dieu a créé, eh bien, d'après le judaïsme, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit que Dieu a créé par la parole. La parole est donc créatrice à 100%. Si la parole est créatrice à 100%, Rabotai, eh bien, celui qui fait du Lashon Hara, c'est qu'il utilise sa parole à mauvais escient. Lui aussi, il pervertit l'autre pilier pour se rattacher et ressembler à Dieu. Donc lui aussi, on lui demande de se sortir du machané. Lui aussi, il va devoir faire un travail d'introspection sur comment il utilise sa parole. De la même que l'autre devait apprendre à utiliser sa force créatrice, eh bien lui devra apprendre à utiliser sa parole. Donc les problèmes qui demandent un écartement du Kodesh, c'est pour en prendre conscience de la valeur. Mais d'un autre côté, nous avons d'autres styles de personnages. Ce sont ceux qui ont besoin comme traitement d'un rapprochement avec le Kodesh. Semble-t-il, dans leur vie, ils n'ont pas suffisamment de contact avec la Kedusha et on veut les rattacher à cela. Eh bien, l'exemple type de notre paracha, eh bien, c'est le couple. Car notre paracha montre la fameuse histoire de l'Aïcha Sota. Eh bien, face à cela, il va falloir prendre une décision. Quel est le problème de cette histoire-là? C'est un couple qui ne va plus. Soit cette femme a trompé son mari, soit elle ne l'a pas trompé, mais il y a de fortes présomptions qu'elle l'ait trompé. Comment de fortes présomptions? Que les choses soient claires, là, Aïcha Sota, ce n'est pas Stam, un mec qui se réveille un matin et puis il en a marre de sa femme, alors il va... Non! Non! C'est quelqu'un qui a vu sa femme s'isoler avec autrui. Deux témoins l'ont vu également. Et il lui a dit ne le fais plus et elle l'a fait quand même et les témoins l'ont revu. Donc il y a une vraie présomption. Maintenant, qu'elle l'ait fait ou qu'elle ne l'ait pas fait, qu'elle ait trompé son mari ou pas, ça montre bien que ce couple, ça ne va pas. Ça ne va plus du tout. Si on en est arrivé à ce niveau-là, de cette tromperie, et je vous vois venir. Je vous vois venir. Pourquoi est-ce que c'est uniquement la femme qui a l'histoire du traitement de la sota? Et si jamais c'est l'homme qui va tromper sa femme? Eh bien, ça marche aussi. Évidemment, pas d'Oraïta. Pas d'Oraïta, parce qu'à l'époque de la Torah, un homme pouvait se marier avec plusieurs femmes. Donc, le fait qu'il aille s'isoler avec une autre femme ne veut pas dire qu'il trompe sa femme, ça veut dire qu'il prend une deuxième épouse. Mais aujourd'hui, où le cherem de Rabbeinu Gershon a été institué, eh bien, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de se marier avec plusieurs femmes, qu'il y a la monogamie, et que c'est d'ailleurs la loi en Israël. Eh bien, à partir de ce moment-là, le même traitement... On va construire le troisième Beit HaMikdash, Be'ezrat Hashem. Eh bien, si on continue dans cette optique de monogamie, la sota sera aussi le sota. Évidemment. Maintenant, dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce couple ne va pas bien. Que ce couple a oublié quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas tout de suite l'amener comme ça, boire la potion magique et toute l'histoire de la sota. Pas du tout. D'abord, le couple arrive ensemble au Beit HaMikdash. Et il va d'abord s'entretenir avec M. Cohen. Et le rôle de M. Cohen, c'est d'écouter la situation, de voir ce qui se passe. Et en fait, d'être un conseiller conjugal. D'essayer de voir si on ne peut pas rabibocher ce couple-là. Parce que le problème de ce couple, et c'est pour ça qu'on l'emmène au Beit HaMikdash, semble-t-il que ça fait très, voire beaucoup trop longtemps qu'ils n'ont pas été ensemble au Beit HaMikdash. Qu'ils n'ont pas été ensemble connectés à la Kedusha. Je vous rappelle que le couple, eh bien, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. Shlosha shutafim ba'adam, pour créer une vie, on a besoin d'un homme, d'une femme et d'Akadosh Baruch Hu. Ve'Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim. C'est lui qui fait les Zivugim. C'est lui qui fait les couples. Et donc, si ce couple ne va pas bien, à tel point qu'on préfère détruire la cellule du couple, qu'en irait, semble-t-il, que ce couple a oublié qu'il représentait Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et donc, on va les amener au Beit HaMikdash pour qu'ils aient ensemble cette expérience du rapprochement à la Kedusha. Vous savez, très souvent, les grands problèmes, et là, je passe le coup de gueule de la journée, on est dans une génération où il y a un énorme problème qui est que les expériences spirituelles se vivent séparées. Et c'est un vrai problème. Je ne suis pas en train de commencer à me la jouer réformée. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire tomber les méritzot. La méritza, elle est super importante et elle reste en place. Ce que je dis, c'est que quand on voit un rassemblement énorme de Gdusha, que ce soit Méron, ou que ce soit l'Aïloula de Rabbi Nachman à Ouman, ou que ce soit l'homme échané, un tish d'un Rebbe, dans une cour chassidique, pourquoi ce sont que les hommes qui y vont? J'ai pas dit mixité en mode pop it up, mais pourquoi on met pas en place une grande méritza et les femmes vont là-bas aussi à Ouman? Je suis pas pour forcément aller à Ouman à Rosh Hashanah, mais je prends comme exemple. Azov, le côté que on part et qu'on laisse la famille, c'est pas le débat. Pourquoi est-ce qu'on fait pas une expérience ensemble, alpitora en mitzvot, bien évidemment, en respectant les lois de la tzniout. Mais pourquoi est-ce que ces événements sont séparés? Pourquoi est-ce que un grand événement d'élévation spirituelle de femme, eh ben c'est que entre femmes? Si on respecte les lois de la Torah, imaginez-vous une kdusha énorme, un concert extraordinaire de Zamarim Tzadikim, où il n'y a que les hommes ou que les femmes. Eh bien, quand il rentre à la maison et il veut expliquer à sa femme ce qu'il a ressenti, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'elle n'était pas là. Tu peux expliquer Sechel. Un chiour de Torah, c'est pas grave que ce soit séparé. C'est pas obligé que ce soit séparé, mais c'est pas grave que ce soit séparé. Parce que c'est le Sechel, la Torah. Ça se passe dans la tête. Dans la compréhension. Donc, le mec, il a été à un cours, ou madame, elle a été à un cours, et elle a compris le cours, et bien maintenant, elle peut le retransmettre à son mari ou à sa femme. Et donc, c'est besader, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une ravaya, il s'agit d'un limoud, d'une étude. Mais là où il y a expérience de vie, je ne pourrai jamais t'expliquer ce que j'ai ressenti. Mais si toi, tu es avec moi, alors oui. L'histoire de la sota, c'est qu'on veut que ce couple, ensemble, soit rattaché à la Kedusha. Ensemble. Il y a donc des problèmes où l'individu doit s'éloigner du Kodesh et il y a des problèmes où l'individu doit se rattacher à la Kedusha eh bien pour justement pouvoir remplir son rôle de dévoiler Dieu. Et je dis remplir son rôle de dévoiler Dieu parce que c'est de cela qu'on parle. Vous le savez, il y a 5 livres dans la Torah. Le Pentateuque. Il y a dans chaque livre de la Torah un acteur qui est l'acteur principal du livre. Ok. Qui est l'acteur principal du livre de Bereshit? Eh bien, je ne vous apprendrai rien en disant que l'acteur principal de Bereshit n'est autre qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ce sont les Avot et les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Ce sont eux les acteurs et actrices principales du livre de Bereshit. Avot. L'acteur principal du livre de Shemot, ben c'est Moshe. Oui, c'est Moshe. Il n'y a pas de débat. Un petit peu à Aaron, mais particulièrement Moshe. L'acteur principal, les acteurs principaux du livre de Vayikra, eh bien, ce sont les Kohanim, Aaron ou Banav. Et de manière générale, les Kohanim. L'acteur principal du livre de Devarim, qui prépare notre entrée en Israël, est justement la fin de notre relation avec Moshe, eh bien, l'acteur principal de Dvarim, c'est Am Israël, en tant qu'entité collective. Quel est l'acteur principal de Bamidbar? Eh bien, l'acteur principal du livre de Bamidbar, c'est le Lévi. Comme dirait Rabbi Yaakov, « Cher Lévi !» C'est le Lévi, l'acteur principal de Bamidbar. Et ça lui correspond tellement bien. Le Lévi, il n'a pas d'appartenance propre, il n'a pas de territoire. Le Lévi, il a un rôle qui est quand même très, très, très aléatoire. C'est ça le désert. Il n'y a pas d'endroit fixe. Ha Lévi ou Midbar. Il est comme on dit en arabe, Luftmensch. Il va au gré du vent. C'est pas comme le Kohanim qui a des villes de Kohanim et tout. Non, le Lévi, il est partout. Le Lévi, il est partout. Mais quel est son rôle à M. Lévi? Son rôle est un rôle, mais d'une importance capitale. Capitale! Et je préfère vous le dire tout de suite. Ce n'est pas que le Lévi. N'importe qui peut devenir Lévi. Non, je te rassure, non. N'importe qui ne peut pas être Lévi techniquement, al-pi al-ha. Mais n'importe qui peut devenir Lévi. Nous dit le Rambam dans Ilchot Shmita Veyovel au chapitre 13, Alacha 12 et 13. Nous dit le Rambam, Lama lo zacha Lévi benachalat Eret Israël ou bebizata imecha? Pourquoi le Lévi n'a pas de part en Eret Israël? Mipne sheuvdal la'avodet Hashem ou le Sharto. Parce que son rôle est de servir à Kadosh Baruch Hu. Velorot de rachav yesharim ou mishpatav tzadikim le rabim. Et il doit enseigner les chemins de Dieu à tout le monde. שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, לא נוחלים ולא זוכים לעצמם ולכוח גופם. אלא הם חיל השם Shenemar Barech Hashem Chelo. C'est-à-dire que les Lévim sont l'armée de Dieu. Bon, d'accord. Ok. Ça, c'est le Lévi. Qu'est-ce qui me dit que moi, je peux devenir Lévi? Velo Shevet Lévi Bilvad. El Kol Ish Veish Mikol Baya Olam. Asher Nadva Rucho Oto. Vevino Madao. להבדיל, להיבדל, סליחה, ולעמוד לפני השם ולשרתו ולעובדו לדעת את השם, והלך ישר כמו שעשו אלוה, כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. N'importe qui voudrait prendre sur lui le rôle de Lévi peut le faire. Alors je vois tout de suite, on a lu que le Lévi, il avait un statut particulier, qu'il n'allait pas à l'armée, et que n'importe qui peut le faire. Et qu'il est là pour enseigner la Torah. Donc peut-être que ça donne eh bien, une légitimité à toutes les personnes qui disent « Vaut mieux pas aller à l'armée, vaut mieux rester à l'Eshiva. » Iné. Sauf que non. Pourquoi sauf que non? Eh bien parce que lorsque le Rambam dit cela, il prend comme exemple quelqu'un. Il dit « Kmo she'amar David, comme David a dit dans les Tehillim, Ken, ani chelkecha venachalatecha. Lorsque le roi David demande à être, eh bien, comme Lévi, on parle du roi David, de quelqu'un qui non seulement n'était pas tout le temps à l'Eshiva, mais quelqu'un qui a fait 18 guerres dans sa vie. Et donc, il ne faudra pas oublier qu'il y a une différence entre Milchemet Reshut, une guerre facultative, dans laquelle effectivement les Lévi ne prennent pas part, et une guerre de mitzvah où tout le monde prend part. Mais bon, parenthèse fermée. Quoi qu'il en soit, donc ça veut dire que tout le monde peut devenir Lévi. Mais à quoi ça sert? Quel est ce rôle? Il doit enseigner, mais qu'est-ce que ça veut dire? Toujours le Rambam, mais cette fois dans les lois sur eh bien, la Avoda Zara, chapitre 1. Le Rambam nous explique, eh bien, si vous voulez, l'historique de l'idolâtrie. Et il nous explique comment ça a commencé, et ainsi de suite. Pour finalement arriver à Avraham, qui va avoir un rôle crucial, pour de nouveau faire connaître un Kadosh Baruch Hu dans le monde. Seulement ici, le Rambam nous explique dans les Halakhot 13 à 18, et bien le Rambam nous explique quelque chose de fondamental. Abraham, lorsqu'il a commencé à l'Ikro Beshem Hashem, lorsqu'il a commencé à invoquer le nom de Dieu auprès du plus grand nombre, et bien comment a-t-il fait? Il a ouvert un groupe WhatsApp, il a fait une chaîne YouTube et il a dit, là, je fais un chiour. Il y a et en présentiel, et en Zoom, et en YouTube. Celui qui veut, il vient. Et celui qui ne veut pas, eh bien tant pis, il ne vient pas. Nous. Voilà comment Abraham agit. Bon, il se trouve que c'est Abraham Avinu. Donc comme c'est Abraham Avinu et qu'il a un charisme extraordinaire et des connaissances fantastiques, eh bien, dit le Rambam qu'il a eu à la fimur vavot talmidim, des dizaines de milliers d'élèves. C'est ça, Abraham Avinu. Une fois qu'Abraham avait terminé le boulot, parce que bon, bah, il était plutôt jeune, il a transmis le flambeau à son fils. Et Yitzhak reprend l'affaire familiale. Il a fait merde. Bon, Yitzhak reprend l'affaire familiale et il fait exactement comme papa. C'est-à-dire, il enseigne, tu veux, tu écoutes, tu veux pas, t'écoutes pas. Il a fait merde quand la cavade, il traque. Bon, il a eu peut-être moins d'élèves que papa, je sais pas, peut-être qu'il était plus antipathique, j'en sais rien. C'est une plaisanterie, bien sûr. Sauf que Yitzhak, lorsque arrive son fils Yaakov, il lui transmet l'affaire familiale, mais Yaakov change complètement de concept. Et à partir de ce moment-là, Yaakov, nous dit le Rambam, Ivdil et Lévi. Yaakov a dit à Lévi que toi maintenant, alors que papa et papy, ils enseignaient à qui veut bien venir entendre, toi, Lévi, tu ne dois pas enseigner à tout le monde. Tu ne fais pas un cours comme ça ouvert à tout le monde, ce n'est pas le but. Toi, Lévi, tu as pour rôle de le Lamed Banav Kulam. Il doit enseigner à tous les enfants de Yaakov. Il n'y a pas celui qui veut, il vient, celui qui ne veut pas, il ne vient pas au chiour. Lévi, il doit enseigner à tout le monde. À tout le monde. Il ne veut pas à l'autre, eh bien il enseigne quand même. Comment ça va marcher? D'abord, vous comprenez que c'est beaucoup plus dur. C'est tellement plus dur de faire un chiour à quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter que de faire un chiour à quelqu'un qui veut écouter. Bien sûr, moi je suis prof, moi j'enseigne la Torah à des gens qui veulent bien m'écouter. Inès, je fais un chiour maintenant parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de faire le chiour. Et donc, j'ai pas, bon, alors en plus, c'est derrière l'écran, mais je veux dire, même quand je suis en présentiel, j'ai pas besoin de faire de la discipline, j'ai pas besoin de trucs. Les gens qui sont en cours, parce qu'ils ont envie d'être en cours. Ma femme est prof dans une école où les gens, ils ont pas envie d'être en cours. C'est beaucoup plus dur pour elle que pour moi, bien évidemment. Et donc, eh bien, quelle est l'histoire ici? L'histoire est très simple. Lévi a pour rôle que tout le monde connaisse Akadosh Baruch Hu. Donc non, Lévi va pas pouvoir faire une grande yeshiva et celui qui veut venir s'inscrire, il s'inscrit. Ça, c'est bien pour une partie du peuple juif, mais pas pour tous. Tu crois vraiment que tous les juifs, ils sont propres à aller à la yeshiva? Pas du tout. Donc Lévi, il doit faire des yeshivot pour les mecs des yeshivot, mais il doit faire aussi des synagogues de quartier pour les gens du quartier, avec des cours de dafyomi pour les batim qui veulent aller au dafyomi, et il doit faire aussi un centre pour les gens qui font tchouva, et il doit faire aussi un truc avec des guitares pour les mecs qui sont un petit peu plus dans l'ambiance artiste, et il doit aussi faire des trucs, des cours intellectuels, mais il doit aussi faire des cours un petit peu plus sur le terrain, avec de l'expérience, avec parce qu'il doit enseigner à tout le monde. Et donc, vous comprenez ce qu'on a dit tout à l'heure, que le Rambam nous dit, c'est pas que Lévi, tout celui qui veut le faire, il peut le faire. J'allais vous dire, il doit le faire. Nous avons comme rôle à tous d'être Lévi. Quand on y réfléchit bien, Lévi, pourquoi il s'appelle Lévi? Hapam, il l'avait ici et là. C'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que c'est Léa qui parle. Et c'est Léa qui parle et qui dit, cette fois, mon mari m'accompagnera. Yitlavé. Alken kara shemo Lévi. Quand on regarde Rashi, il va nous expliquer que ce n'est pas Léa qui a donné le nom. Le nom de Lévi vient d'Akadosh Baruch. C'est Dieu qui l'a appelé Lévi. Quand donc ça donne un éclairage énorme, ça veut dire que lorsqu'on te dit à Pam, il avait ici et là, hein, que cette fois-là, ça y est, il va m'accompagner, on ne parle pas. On ne parle pas, Stam. De Yaakov qui va accompagner Léa. On parle de ceux qui vont accompagner Akadosh Baruch Hu. Abraham, il avait ici et là, et le Lévi, son rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde connaisse Akadosh Baruch Hu. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit laissé pour compte. Personne, quelque part, sera sans chiour de Torah. Et comment est-ce que tu vas pouvoir enseigner la Torah à des gens complètement différents? Je peux t'assurer que le mec qui est fort en cours de, je sais pas moi, de Gemara, des gens qui ont étudié 12 ans à la Yeshiva, en général, il est très mauvais pour faire un cours à des jeunes de 14-15 ans. Et en général, il est très mauvais pour faire un cours à des gens qui ont absolument aucune connaissance de Torah. C'est pas les mêmes capacités. C'est pas les mêmes, j'allais dire, connaissances qu'on a besoin. Et donc, il est évident qu'on a besoin de tout le monde. Car ce à qui moi, je vais pouvoir et apporter quelque chose, c'est très bien. Mais ce n'est absolument pas le même personnage qui pourra apporter à d'autres. Et c'est pour ça que nous avons la responsabilité, chacun d'entre nous, lorsqu'on entend quelque chose, eh bien de le retransmettre à notre façon. Même si on a entendu la même chose, moi je suis le produit à 80% du Rav Cherki, du Rav Uriah Moshe Cherki, Shlita. Et j'ai 20% d'autres rabbanim qui m'ont appris des choses et qui m'ont fait grandir. Mais de manière générale, je suis l'élève du Rav Cherki. Maintenant, quand je vais dire quelque chose, peut-être que, et pas peut-être, c'est sûr, le cours que lui va donner sera beaucoup mieux, sera plus agréable à argumenter, mieux amené. Et moi, je vais essayer de redire le même enseignement. Mais il est possible, bien que mon enseignement soit beaucoup moins pertinent que le sien, il est possible que je touche des publics que lui n'arrive pas à toucher. Et que, inversement, moi, je ne touche pas des publics que lui peut toucher. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque on apprend quelque chose, eh bien, on se doit d'être Lévi et on se doit de le renseigner. La paracha de Nassau nous montre qu'il y a la place pour chacun dans ce dévoilement de la Torah, car chacun est nécessaire pour propager la Torah. Je n'y arriverai pas tout seul, tu n'y arriveras pas tout seul, ensemble, on y arrivera. Mais c'est assez pour Agadol. C'est ça la grande histoire. Comprendre dans la paracha de Nassau qui règle les problèmes de l'individu, c'est qu'une fois que tu as pris conscience de ta force au niveau individuel, eh bien tu dois voir comment est-ce que toi tu peux influencer le clan. Mais il y a quand même un tronc commun. On a dit, pour que je puisse me relier à Kadosh Baruch Hu, il faut que je ressente que je fais partie d'une famille. Celui qui nous l'a enseigné le plus, c'est celui qui était notre père à tous, même si pas biologiquement. Il est la Zaken, Nessé à Sanhedrin, on nous raconte son histoire dans Maseret Shabbat, à la page 31. Et on nous raconte qu'une fois, c'était Shabbat. Enfin, c'était vendredi après-midi. Ça allait être Shabbat. Et Hillel se préparait. Il y a deux hommes, deux jeunes, qui se sont dit, moi Hillel, je l'aime pas. Je vais montrer que tout le monde dit, c'est lui le chef du peuple juif. Il a l'air tzadique et tout. Moi, je vais montrer qu'il s'énerve très facilement. Et l'autre, il dit, tu n'y arriveras pas. Hillel, c'est un vrai tzadique. Alors, il dit, ah ouais, ben viens, on parie. Arba meotzouz. C'est beaucoup d'argent. Je te promets que j'arrive à l'énerver. Ouais, essaye. Et cet homme arrive et toque chez Hillel. On est juste avant Shabbat. Et Hillel est sous la douche. Et donc il dit deux secondes. Il sort, il s'habille et il sort de la maison et il dit oui. Et là, il commence à lui poser le mec des questions débiles. Maaseh b'shnei anashim she'emiru. Ils ont dit qu'ils allaient finalement. Alar va'avar al petach beito. Amar mikan Hillel, mikan Hillel. נתתף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? כיש שווה מופיס. אמר לי, שאלה יש לי לשאול. אמר לי, תשאל בני. שאל בני, מפני מה ראשיהם של בבלים סגלגליות? פוקו על הטט די בבילוניה הייתה מטיפה הובל. אמר לי, בני, שאלה גדולה שאלת. סינכרון קיסיון טיפוס מופיס. Et il lui a donné sa réponse. Et puis après, il s'en va. Et Hillel retourne se préparer. Et 10 minutes plus tard, il revient. Et Hillel ressort, il se rhabille. Et il dit, oui, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, j'ai une grande question. Il dit, pose la question, mon fils. Et il pose la question, une autre histoire. Pourquoi les pieds des Africains sont comme ça? Pourquoi les yeux des Asiatiques sont comme ça? Et à chaque fois, Hillel répond, Sheela Gedola Shealta Beni. C'est une grande question que tu as posée, mon fils. Si bien qu'à la fin, il n'arrive pas à s'énerver. Et il a perdu son pari, le mec. Et il dit, je te déteste, à cause de toi, j'ai perdu. Il dit, allez, vaille que tu perdes beaucoup de paris, mais qu'il y a des gens comme moi. Mais qu'est-ce qu'il nous apprend ici, Hillel? Hillel nous apprend une chose très importante. Lorsque tu t'approches de lui, avant même qu'il ait posé ta question, Hillel lui dit, béni, tu es mon fils. Et après, il dit, c'est une grande question que tu as posée, mon fils. Parle, mon fils. Tout de suite, Hillel rentre cet homme-là dans la famille. Il fait partie intégrante du groupe. Et c'est ça la paracha de Nassau. La paracha de Nassau commence par régler les problèmes de l'individu, lui redonner sa connexion avec Dieu par l'intermédiaire de sa famille, qui va lui permettre de devenir un des maillons de la transmission de l'identité d'Israël et du message divin pour toute l'humanité. Shabbat, shalom, les coulames.